Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Radio B est en fait 40 ans d'existence, d'aventure radiophonique. La radio, c'est du vivant, elle est vivante, c'est de l'humain. La radio, une introduction à la culture de soi, pourvu qu'elle ne sombre pas dans la bouillie du sonore qui ne peut dispenser qu'une culture en pluie et qui ne saurait enrichir l'esprit. Fin de citation. C'était Jean Tardieu, écrivain, poète, et qui fut le directeur du club d'essai à la radio-télévision française à partir de 1946 jusque dans les années 1960-63. Cet anniversaire de Radio B nous donne l'occasion de nous plonger, de nous glisser dans les pas de Jean Tardieu. C'est véritablement passionnant de plonger dans ses écrits, ses réflexions, ses préoccupations, ses pensées, de revivre ce formidable enthousiasme, cet élan vis-à-vis de cet outil merveilleux que constitue la radio et de constater l'importance de son œuvre radiophonique. Jean Tardieu, un esprit visionnaire qu'il a porté avec tous ceux et toutes celles qui ont fait partie de son équipe du club d'essai, posant les bases de ce qu'est la radio aujourd'hui. Il faut, écrit-il, souhaiter que, dans tous les pays, les esprits responsables, ceux-là même qui, savants, ingénieurs, écrivains et artistes, ont donné naissance à ce formidable instrument de communication, contrôlent et gouvernent, de plus en plus, cette masse de vibrations lancée aux quatre vents, charriant le meilleur et le pire, avec la superbe indifférence des mouvements de la nature. Il ne faut pas que la conscience unanime des hommes soit débordée par ses propres créations. Il ne faut pas que les intelligences les plus nécessaires à notre temps se détournent de la radio, entre guillemets, sous prétexte que le pur divertissement, pourtant indispensable, parle ou chante à trop haute voix et empêche d'entendre le bruit profond de l'époque. Il ne faut pas que les fantômes s'échappent et se répandent où ils veulent. Un jour, on ne pourrait plus les retenir et leur ravage serait effroyable. Fin de citation, Jean Tardieu. Troisième volet de notre série d'émissions, donc aujourd'hui, imaginée autour de l'anniversaire de la création de Radio B. Et présentement, dans cette émission, nous nous intéressons aux fictions radiophoniques. Radio B, Résonance, Alain Goudard, une émission réalisée et mise en onde par Simon Deborne. En tant que laboratoire de l'art radiophonique, le club d'essai se devait de produire des œuvres créées pour le micro et permettre le développement d'une création dramatique autonome, détachée du théâtre, mais revendiquant toute sa place dans le monde du spectacle. Il n'avait de cesse de faire entrer de l'air frais. L'écriture d'un radiogramme original est toujours une des principales préoccupations du club d'essai, écrivait encore Jean Tardieu en 1953, après avoir évoqué le passage d'une activité d'adaptation de chef-d'œuvre du roman en 1946-1947 à une politique de commande d'œuvres écrite spécialement pour la radio. On notera toutefois que parmi les huit œuvres de fiction commandées en décembre 1947 et janvier 1948, 5 sont des adaptations de romans ou de scénarios de films, l'originalité revendiquée concernant avant tout le mode de travail d'un trio auteur, compositeur, réalisateur, réunis dès la conception en lien avec un producteur général. On peut donc souligner que la littérature s'est rapidement saisie de la fiction diffusée à la radio. Perçue d'abord comme un texte plutôt que comme une performance, la fiction radiophonique est alors devenue un genre littéraire, à la différence que sa diffusion se faisait par l'entremise d'un autre type de support, les ondes radio. Cette manière de conceptualiser la fiction radiophonique a toutefois le défaut de laisser de côté toute sa dimension sonore. Pour régler cette lacune, on l'a plutôt rapproché du théâtre en s'appuyant sur sa dimension dramaturgique découlant du jeu des acteurs et sur le travail des bruiteurs. Pierre-Marie Héron, qui a écrit différents ouvrages sur la fiction radiophonique, précise, et je le cite, qu'une des toutes premières fictions radio s'intitule « La voix de Gaston Revel, 1928 ». C'est un dialogue halluciné d'une jeune femme avec une voix inconnue à travers une porte close, voix en réalité née de son cauchemar. Beaucoup plus connue, la voix humaine de Jean Cocteau, écrit à l'origine pour le théâtre, mais best-seller radiophonique des années 30, est symptomatique de cette tendance de la fiction radiophonique à tourner autour, entre guillemets, de sujets naturellement compatibles avec le média. Fin de citation. Citons notamment par rapport à La voix humaine de Jean Cocteau que le compositeur Francis Poulenc a mis également en musique La voix humaine de Jean Cocteau. Et je vous propose de découvrir, non pas La voix humaine, mais l'univers musical de Francis Poulenc en découvrant, en écoutant ensemble une œuvre, un extrait de Figure humaine, une cantate pour double chœur mixte a cappella sur des poèmes de Paul Éluard. La radio comme médium est là où l'art radio comme média a lieu. Citation de John Barber. Alors nous venons d'entendre un extrait de la cantate Figure humaine, composée par Francis Poulenc en 1983. Resituons Francis Poulenc, il était né à Paris en 1899 et il nous a quittés le 30 janvier 1963. Alors nous avons entendu un extrait intitulé « En chantant les servantes s'élancent », donc pièce extraite de cette cantate Figure humaine pour double chœur mixte. Et là, elle était interprétée par le groupe Vocal de France, placé sous la direction de John Aldiss. Alors, dans la préface, gardons encore cette œuvre de Poulenc et de Cocteau, dans la préface de La voix humaine, pièce où le téléphone prend l'importance d'un acteur, Jean Cocteau dit avoir donné toute leur place aux imbroglios que propose l'appareil, avec ses coupures, les attentes pour avoir la ligne, les oreilles intruses, malveillantes ou indifférentes, et fait passer le drame de cette femme plaquée par son amant dans les singularités graves des timbres timbre l'éternité des silences. » Fin de citation. Plus que les mots échangés, c'est la matière même de la voix, ses rythmes, ses timbres, ses hachures qui deviennent le véhicule des sentiments. Mélange des formes, des récits, des voix. Comment raconter une nouvelle histoire à partir de toutes les autres? Alors, dans la fiction radiophonique, musique, paroles, silence et bruit, faisant par définition partie de la boîte à outils d'une fiction radiophonique, leur utilisation ne suffit pas pour parler d'hybridation de la radio avec d'autres arts. Mais en revanche, si la voix, les mots, les bruits sont traités comme de la musique, si la fiction est écrite ou réalisée comme un film de cinéma, ou au contraire comme une pièce de théâtre, il y a bien croisement d'espèces, dans la mesure où le langage propre au médium radiophonique se trouve alors modélisé par le langage d'un autre médium.
Oh. Et surtout, unifiez la vérité. Réparez les mots qu'on nous a faits. Nous avons rampé les contrats. Nous avons rampé sous nos esclaves.
Du règne, du roman, nous sommes heureux.
La radio comme médium est là où l'art radio comme média a lieu, John Barber. Alors là, nous avons entendu la musique d'un autre compositeur français qui va s'intéresser beaucoup à concevoir des œuvres pour la radio. Il s'agit là de Darius Milhaud, voisin aussi de la période de Francis Poulenc, puisque celui-ci est né en 1892 et est décédé en 1974. Alors là, nous avons entendu La mort du tyran, œuvre composée par Darius Milhaud en 1933 pour chant et percussions, petite flûte, clarinette et tuba. Et le texte, utilisé par Darius Milhaud, est un passage de Lambride, traduit par Diderot dans sa dissertation sur la poésie rythmique, qu'il citait justement comme un exemple de force rythmique jusqu'à l'emportement. La mort du tyran est ici interprétée par l'Orchestre Philharmonique de Paris en 1956 sous la direction du compositeur et chef d'orchestre Darius Milhaud. Alors, citons que Darius Milhaud va composer, imaginer plusieurs œuvres, plusieurs fictions, histoires radiophoniques, et citons par exemple Agamemnon, d'Eschyle en 1938, Voyage au pays du rêve de Ravenne en 1939, Le Grand Testament de Franck en 1948, La fin du monde de Blaise Sandard en 1949, Le repos du septième jour de Paul Claudel en 1950, Samael d'André Spire en 1953 et enfin Le D-Book de Shalom Hansky en 1963. La création radiophonique, la fiction radiophonique n'ont cessé de se développer, bien sûr, jusqu'à nos jours. De nombreux artistes se sont emparés de cet outil de création que peut représenter justement cette fiction radiophonique ou la création radiophonique. Alors celle-ci présente une certaine est encore présente aujourd'hui, bien sûr, sur certaines chaînes radiophoniques, même si celle-ci a bien diminué malheureusement que par rapport à l'époque dont nous faisons référence aussi aujourd'hui, mais elle est aussi réinvestie dans de nombreuses radios diverses, locales, liées à des festivals de musique contemporaine, et donc de nombreuses personnes qui ont choisi aussi de prendre la radio comme un outil de création, donc l'investissent beaucoup et nous donnent justement de belles pages de fiction radiophonique. Alors je vous propose de partir dans l'une d'entre elles, dans l'une de ces belles histoires radiophoniques, et de découvrir maintenant une fiction imaginée par Lorenzo Carolla, qui s'intitule Olimo, Olimo ou les Structateurs du désert. On peut trouver justement cette Olimo ou les Structateurs du désert, édité chez l'éditeur Lanzmann. Alors le propos de cette histoire, de cette fiction radiophonique est le suivant. Une ville, en plein désert, est assiégée par un bruit d'origine inconnue. Menace ou illusion collective ? Après un âpre débat, les autorités décident d'envoyer 3 éclaireurs. En suivant toujours le bruit dans la même direction, ces scrutateurs, devenus des vieillards, reviendront à leur point de départ.
C'est bon, on va vous la raconter encore une fois. Mais arrêtez !
Vous, les enfants, vous aimez qu'on vous raconte toujours la même histoire ? Vous vous fatiguez jamais ?
Enfin, ça tombe bien, nous n'en avons qu'une à raconter.
Mais après, vous dites qu'on radote, qu'on est des vieux fous. Et puis quand même, vous voulez qu'on recommence. Nous sommes tellement fatigués.
C'est vrai, nous étions déjà vieux quand nous sommes arrivés ici. Maintenant, je ne sais plus vraiment l'âge que j'ai.
Moi non plus, mais ça doit être vraiment très vieux.
Ça n'a plus aucune importance. Nous n'avons plus aucune importance. Mais notre histoire, c'est tout ce qu'il nous reste. Et puis...
Allez, dépêchez-vous!
Sinon, vous allez mourir comme l'autre, là, avant la fin.
Bon, ça va, je commence. Chut! Et vous, arrêtez de nous taquiner. À notre âge. Au début, il y avait le bruit. Et on ne savait pas d'où ça venait, mais il fallait trouver. C'est dans les champs que ça a commencé. On travaillait toujours dur, le dos courbé du matin au soir. Puis, quelqu'un a remarqué le bruit.
On a eu peur que ça nous tombe dessus, qu'on allait être attaqué. Ça n'était plus arrivé depuis longtemps, bien avant notre naissance.
Nous sommes restés enfermés derrière les murs de la ville, attendant l'arrivée des hordes ennemies. Mais l'horizon n'apportait rien de nouveau. On n'entendait que ce bruit incessant, comme une enclume, peut-être même un tambour. Et s'il s'était cantonné là-bas, derrière les collines ?
Personne ne fermait l'œil. Après plusieurs semaines, nous étions tous exaspérés et affamés. Finalement, au bout d'une séance orageuse, le cercle des sages a été forcé de prendre une décision.
Messieurs, je vous prie, calmez-vous. Un peu de silence, de l'ordre. De l'ordre. La parole est au grand conseiller. La faction adverse est priée de le laisser répondre. Sans un peu de calme, le débat ne pourra se poursuivre. Veuille le grand conseiller reprendre la parole.
Je vous remercie, monsieur l'officier des séances. Éminent membre du conseil, estimés collègues du forum de la ville d'Olimo, en une telle période de crise, enquêter et discuter pour savoir à qui attribuer la responsabilité de la situation dans laquelle nous nous trouvons ne me paraît pas digne de cette assemblée.
Monsieur, je vous en prie, le grand conseiller a la parole.
L'histoire jugera ceux qui, pour créer le désordre et imposer ensuite un pouvoir totalement en contradiction avec nos lois sacrées et progressistes, n'hésitent pas à faire appel à des puissances étrangères. L'assemblée doit rester solidaire et protéger l'intérêt général de la population. Le progrès ne sera entravé par aucune volonté aveugle de modifier les fondements de notre civilisation au moyen de dangereuses innovations. Le progrès n'a besoin d'aucune nouveauté, seulement du respect des traditions et de la paix que notre peuple a toujours su imposer à ceux qui, de gré ou de force, se sont trouvés sur son glorieux chemin.
Nous remercions le grand conseiller. Messieurs, messieurs les délégués, vous êtes priés de garder le calme. La parole aux délégués pour les territoires hors les murs à l'ouest du fleuve.
Chers collègues, éminents membres du Conseil, en tant que représentant des colonies au-delà du fleuve, je sais très bien que mes administrés se trouvent en première ligne chaque fois que des forces contraires à l'avancée de notre civilisation viennent s'opposer à nos progrès de paix. Et c'est à juste titre. On pourrait me traiter d'ingrat si je ne remarquais pas la diligence dont fait preuve le Conseil pour essayer d'enrayer toute possibilité d'invasion en allant au-devant de l'ennemi, en le surprenant, disons, avant même qu'il ne se soit manifesté comme ennemi. Tant de clairvoyance ne peut être qu'applaudie.
Je prie l'éminent délégué d'en venir au fait. Le temps presse.
Bien sûr, monsieur l'officier, je vais me dépêcher, mais vraiment, le temps presse. Pourquoi toujours agir comme des bêtes traquées? De cette manière, les sages sont toujours les otages inquiets du trop tôt ou du trop tard. Pour nous libérer de cet impossible choix, il est utile de prendre en considération une troisième solution, en regardant au-delà de l'horizon tout proche.
C'est la pure couardise. Celui qui n'a jamais gouverné ne peut savoir que la paix de nos territoires doit être conquise au prix fort. Nous sommes bien informés sur les villes prétentions de l'ennemi. Nous connaissons ses armes, ses ruses. Nous en avons eu la preuve par le passé. Et cette fois, nous ne serons pas pris au dépourvu.
Évidemment! Mais de cette façon, le passé inonde le présent de ses eaux troubles et l'empoisonne. Ce prix que vous fixez, ce n'est pas vous qui allez le payer. Vous enveloppez tout cela dans les brumes de quelques mythologies du sacrifice pour justifier le troc d'une population contre une cause plus grande, un objectif soi-disant supérieur, un expédient quasi religieux pour glorifier l'horreur, la vaine intolérance du vide.
Mais de quoi parlez-vous? Vous savez très bien qu'il est contraire aux lois sacrées de ne pas imposer notre connaissance des destins supérieurs à ceux qui ignorent qu'ils vivent dans l'erreur. Ce serait une impardonnable manifestation d'égoïsme.
La parole à l'éminent cultivateur des parts célestes. Les délégués sont priés de garder le silence. Le cultivateur a droit d'interruption.
Je ne saurais comment vous exprimer la douleur que j'éprouve. Dans un débat aussi déchirant, il me semble que le forum s'enlise dans ses habituelles dangereuses divisions. La paix et le progrès ne se conquièrent pas en cédant à la peur. Il existe des voies plus sûres pour affronter chaque problème. Des voies qui nous ont été indiquées par celui qui nous observe dans notre banale insignifiance. Si ceux qui viennent vers nous ne montrent pas clairement un profond désir d'embrasser nos lois, il est de notre devoir de défendre celles-ci, même au prix de les outrager. Il vaut mieux porter atteinte aux lois que risquer leur destruction. Dans ce débat, il me semble que chacun cède à la fièvre qui le pousse à laisser quelques traces dans l'histoire. Je vous supplie de revenir à la raison. Il ne s'agit point d'un jeu, mais de la sauvegarde de ce qui nous a été confié par des instances supérieures, notre civilisation.
Messieurs, le temps imparti pour les débats est arrivé à échéance. Passons au vote de la proposition d'action de la faction neutre qui suggère d'envoyer une expédition d'exploration. Dans ce but, le cercle des sages devrait désigner trois éléments sains et robustes, mais aussi dotés de qualités diplomatiques. Ces dignes représentants du peuple devront être surestimés par l'ennemi, en suscitant de la crainte par leur prestance physique et du respect par leur qualité spirituelle. Nous allons courir le risque de sacrifier trois membres appartenant au plus haut lignage. Le choix se justifie par la volonté de mettre à l'épreuve trois futurs dirigeants et donner définitivement à ce statut une dimension héroïque.
L'expédition, c'était nous trois, évidemment. Enfin, avec celui qui est mort. Tu parles de héros.
Nous avons été instruits avec une rapidité et une efficacité extraordinaires par les maîtres les plus habiles et équipés de manière à être prêts à toute éventualité. Devant les murs de la ville, la sortie de l'expédition a donné lieu à une petite cérémonie de la part du Cercle des Sages. Bien qu'un peu hâtive, elle a été considérée de tous comme un événement mémorable.
Tu exagères. Ils ne pensaient qu'à une chose, c'est de retourner derrière les murailles. Ils étaient morts de peur, et nous aussi.
Toute la population, massée avec anxiété derrière les murs, nous a suivis du regard alors que nous traversions l'immense étendue qui sépare la ville de la première colline. Nous étions comme suspendus dans le vide, au milieu de la plaine, entre un peuple inquiet et un danger probable. Jusqu'à ce que le passage prudent de la colline nous ouvrit l'horizon sur une horde de cailloux.
Afin d'éviter de signaler notre présence à l'ennemi, les experts de la ville avaient trouvé un stratagème ingénieux. Les résultats de la reconnaissance étaient communiqués à la ville par des symboles tracés à flanc de colline, avec des cailloux de couleur.
La réponse du cercle a été immédiate. Nous devions poursuivre jusqu'à la prochaine colline, à quelques jours de marche. Tandis que la ville allait envoyer une seconde expédition, mieux fournie et plus aguerrie, au poste où nous étions.
À l'évidence, le cercle avait conclu que le bruit pouvant être entendu de si loin, il était probable que les rangs des envahisseurs étaient plus consistants que prévu.
Notre angoisse était au comble lorsque nous avons franchi la deuxième colline. Mais le résultat fut le même. L'origine du bruit s'était déplacée beaucoup plus loin, derrière une chaîne de montagnes.
Nous avons communiqué nos résultats à la seconde expédition, qui à son tour devait en informer la ville en utilisant la même technique.
Le cercle des sages décida alors d'envoyer une partie de l'armée au premier avant-poste, tandis que les deux autres expéditions allaient progresser jusqu'à des postes plus éloignés. Nous avions désormais la certitude de l'imminence d'un affrontement terrible.
Alors que nous escaladions avec difficulté une immense montagne, nous imaginions l'impatience et la nervosité qui se répandaient au sein du cercle des sages. Ses compétences étaient mises à rude épreuve par l'ennemi invisible.
Et quel dut être leur désarroi lorsqu'au risque de nos vies, nous leur avons communiqué en caractère gigantesque sur une paroi abrupte que derrière la montagne s'étendait une vaste plaine, au-delà de laquelle on entrevoyait à peine un groupe de collines et que le bruit semblait provenir du néant, mais toujours de la même direction.
Nous ne comprenions pas comment ils arrivaient à se déplacer aussi vite.
Oui, mais il pouvait aussi s'agir d'une ruse pour dégarnir les rangs de l'armée protégeant la ville. Le cercle nous fit savoir qu'il allait rappeler nos soldats à l'intérieur des murs, en laissant deux garnisons aux premières rangées des collines. De plus, comme prévu par les mesures de sécurité exceptionnelles, des garnisons ont été dépêchées dans toutes les directions pour former un double rideau de protection.
Il devait y avoir certainement beaucoup d'hésitations au sein du cercle. Et on se demandait, comme d'habitude, pourquoi ils n'avaient pas pris plus tôt ces précautions. Les représentants allaient tenter de savoir à qui attribuer la responsabilité d'une telle faute, ce qui allait entraîner des changements considérables dans l'administration de la ville. Des têtes allaient tomber. Ça nous faisait rire d'imaginer leurs disputes de là où nous étions.
Nous avons dû attendre que le dispositif de défense soit mis en place pour recevoir de nouveaux ordres. Au sommet de cette montagne, nous nous sentions encore forts de l'importance de notre mission. De là, nous pouvions entrevoir les contours de la ville. Et lorsque nous nous tournions de l'autre côté, vers le bruit, nous ressentions un mélange d'excitation et de peur. C'est pourquoi nous avons repris avec enthousiasme notre marche. Lorsque les ordres sont arrivés sous forme d'un unique symbole qui signifiait « continuer ».
C'est la dernière fois que nous avons communiqué avec la ville. Pour le reste, un long chemin sur lequel nous avons vieilli.
Au début du voyage, nous avons souvent vérifié si un infime changement d'intensité indiquait que le bruit s'était rapproché. Mais l'origine du bruit semblait se déplacer à la même vitesse que nous. Avec la prudence des chasseurs, nous nous sommes penchés sur les sommets, au bord des précipices, dans l'attente anxieuse d'une découverte terrible ou merveilleuse. Combien de montagnes nous ont paru insurmontables, interdites? Et pourtant, toutes ont fini par céder leur immensité à nos pas insignifiants.
Mais peu à peu, la tension a fait place à la déception. La déception à l'habitude. Et l'habitude au total oubli de la raison de ce voyage. Pendant un nombre incalculable d'années, nous nous sommes traînés sur ces terres en refaisant automatiquement les gestes quotidiens qui nous permettaient de poursuivre la route. Les paroles se sont faites rares, jusqu'à s'épuiser. Et nous avons limité au strict nécessaire la recherche de nourriture, disponible sans trop de peine sous les rochers ou au pied des arbres.
Nous avons marché tous les trois tête baissée, avec une obstination aveugle. On avait toujours faim et toujours soif. Puis un jour, c'est moi qui remarquai que le bruit était différent. Nous nous étions arrêtés pour boire.
Moi, j'étais déjà un peu dur de la feuille.
Le bruit, il est plus près. Vous voyez ça? On dirait qu'ils n'ont rien entendu. Nous sommes réduits comme des bêtes à laper l'eau sous les roches, à voler les baies aux rats et les os aux serpents. Écoutez ! Je n'ai pas osé vous en parler tout de suite, mais ça fait quelques jours que ma conscience se réveille petit à petit. Et ça fait mal ! J'ai la tête qui tourne. Ça suffit ! Je n'ai plus aucun doute. Je m'assieds là et j'attends que vous vous réveilliez. Et si je suis devenu fou, autant que vous soyez au courant. C'est sûr, je resterai toujours le moins vieux. Ces choses-là ne changent pas. Vous êtes devenu sourd, c'est ça ?
Alors, tu viens ?
Cette voix ensablée, ça fait combien d'années ? Qui êtes-vous ? Et moi, vous vous souvenez ? Ça fait combien de temps que je ne vous ai plus regardé en face tous les deux ? Tout rabougri, séché, sans expression. C'est sans doute mieux. Un sourire pourrait vous effriter le visage. Le bruit s'est rapproché. Vous ne comprenez pas?
Lève-toi, on continue.
Avance, s'il te plaît.
Dans cet univers fossile, l'intelligence a la lenteur des pierres. Vous avez oublié, voilà ce que c'est. Vous êtes trop vieux.
Mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas l'heure de manger.
Ce sont les rations d'une semaine. Tu veux nous voir mourir?
Nous allons être en retard.
Mais quel retard? Mais qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui se passe?
Le bruit. Il s'est rapproché. Vous entendez? Pas seulement le volume, mais la substance a changé. En plus de ce battement sourd, maintenant on distingue comme des fibres. Écoutez, on entend aussi une sorte de frottement, avec de temps en temps de douloureuses pointes aiguës dans les intervalles. Qu'est-ce qu'on attend? Aidez-moi à me relever. Vous n'êtes pas obligé de me tenir la main. Je m'en sors tout seul. Et puis, non, redonnez-moi vos mains. On aura plus de force. C'est notre dernier effort. Allons, pour Olimo.
Pour Olimo.
Tenez-vous droit.
Je n'y arrive
pas. Rappelez-vous que nous devons avoir belle allure.
J'ai mal au dos.
Au nom de
la vie.
Au nom de...
Nous sommes ici présents au nom de la vie d'Olimo.
Disposition, passivité.
La bienvenue au nouveau tarif et
vénérable
fille de notre qualité d'ambassadeur.
Nous sommes
glorieux peuple
et la visite du sol de notre territoire
compensée par l'intelligence et la subtilité de notre glorieux peuple au dépourvu ni dominé par des forces de jaloux. De nos pourtant modestes avoirs durement acquis et la sueur de nos soins, mais aussi fouillés.
Mais aussi au foie immuable
dans le goût que des parts célestes qui ont confié à notre peuple
la charge essentielle de rendre céleste
le corps sur lequel nos glorieux peuples fut déposé par une époque immémoriale pour y éclore comme une fleur.
Petite fleur des plaines.
De la ville, un grand cratère.
10, 20, 30 dan, 5, un nombre incalculable d'an tire à grand peine sur des cordes.
Anne, grand peine, cordes. Pauvre bête.
Les cordes font tourner une gigantesque roue en bois, avec des soubresauts.
Moi aussi, j'avais un âne, quand j'étais petit.
Du cratère partent d'autres cordes, reliées par des poulies et des roues plus petites à une grande roue.
La grande roue. Je ne lui ai jamais donné de coup de bâton.
À intervalles réguliers sortent du cratère, pendus à l'une des cordes, un grand récipient rempli de cailloux.
Récipient plein de cailloux. Et... de boue. Il y a aussi de la boue.
Je ne me souviens pas de son nom.
Des hommes manœuvrent ces récipients, et en verse le contenu dans de gros chariots qui, traînés par d'autres ânes, se dirigent vers l'extérieur de la ville.
Vers... Je crois qu'ils vont vers l'ouest.
Qui sait s'il est encore vivant?
Les sons plus aigus semblent provenir de l'intérieur du cratère. Comment?
Comment?
Mais non, il n'est pas vivant. Je ne sais même pas si moi je suis vivant.
Comme si la terre hurlait de douleur parce qu'on lui arrache les viscères.
Bon, ça, je ne crie pas. Eux, ils aiment les informations concrètes.
Il s'appelait Victor.
Qu'est-ce que tu dis?
Quel Victor?
Mon âme.
Il y a des enfants là-bas.
Tout a rouillé. Je parviens plus à leur monter.
Mais tu les as vus. Qu'est-ce que tu veux faire? Utiliser des armes contre des enfants rachitiques vêtus de haillons?
Contre eux, pas. Mais peut-être plus loin.
Mais s'il est encore vivant à mon retour, je ne le vais plus travailler.
Allons-y sans armes. S'il faut se défendre, je doute qu'on y arrive.
Trois mesures d'avoine. L'été, toute la journée au soleil. Et l'hiver à l'intérieur.
Il se dirige vers nous.
Je pourrais trouver une compagne pour Victor.
Bonjour les enfants.
Bonjour.
Salut les clodos. Qu'est-ce qu'ils puent?
C'est fort possible. Mais vous parlez notre langue.
Pourtant, avec un drôle d'accent.
Connaissez-vous quelqu'un qui vendrait une ânesse?
Je vous en prie, ne nous jetez pas de cailloux.
Doucement. Nous sommes ici pour une importante mission.
Nous avons besoin d'une ânesse.
Il y a une femme là-bas.
Bonjour, madame.
Ça suffit, les enfants. Laissez ces cochards en paix.
En vérité, nous aimerions parler aux autorités de cette ville. Nous sommes porteurs d'un message important.
Nous sommes des ambassadeurs.
Quoi? Asseyez-vous là. C'est la salle d'attente. Je vais vous apporter un peu de soupe.
Madame, nous n'avons pas le temps pour la soupe. Nous sommes pressés.
Ça suffit maintenant, les enfants. Vous ne savez pas qui nous sommes? Qui parle d'une salle d'attente?
Qu'est-ce qu'il fait? Il dort?
Qui? Mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas le moment. Réveille-toi. Il est mort.
Voilà. Attention, elle est bien chaude.
Madame, nous n'avons plus de temps à perdre. C'est de la plus haute importance. Veuillez nous indiquer où se trouvent les autorités.
Il y a un homme là-bas, en haut de l'escalier, qui est en train de nettoyer ses lunettes. Il a l'air important.
Monsieur!
Il n'entend pas. Il nous fait signe de monter.
Qu'est-ce que je peux faire pour vous?
C'est incroyable! Vous parlez notre langue et nous ne nous sommes jamais rencontrés!
Probablement pas, ou je m'en souviens pas! Je suis pas physionomiste!
Mais cette dame ici dehors...
Elle... C'est ma mère! Elle est sourde!
Je comprends!
Quoi?
J'ai dit je comprends!
Bon, qu'est-ce que vous voulez?
Nous venons d'une autre ville, très loin d'ici. Nous voudrions parler aux autorités.
Nous sommes porteurs d'un message très important. Nous avons entendu ce bruit et...
Ah! Peut-être avons-nous réveillé ces messieurs.
Qu'est-ce que c'est?
Une mine. Je suis le directeur et l'un des rares qui soit resté ici.
Et les autres?
Ils sont partis vers l'est. Il paraît qu'il y a de beaux endroits là-bas. Vous devriez aller voir.
Une mine de quoi?
Je peux pas vous le dire. Si vous êtes de la concurrence... Comment s'appelle votre ville?
Olimo.
Je comprends pas.
Olimo. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas?
Vous vous moquez de moi? Écoutez, vous savez où aller? Ma mère vous donnera de la soupe, j'ai du travail! Vous les mendiants, vous ne savez vraiment plus quoi inventer! Allez, tenez!
C'est malin! La soupe est froide maintenant! Tant pis pour vous!
quand vous aurez fini, vous allez me débarrasser de l'autre, là. Voyez, les enfants ont déjà commencé à jouer avec son corps. Ça va sentir mauvais. Ça pue, déjà. Et j'ai assez de travail comme ça. Les enfants, montrez-leur la fosse où jeter le corps. Oh, Limoges, je te jure. Si c'était pas pour mon fils, il y a bien longtemps que je serais parti d'ici. Et je ne veux rien entendre.
C'était Olimo ou Les Scrutateurs de désert, une fiction radiophonique de Lorenzo Carola. Pietro Pizzuti, Angelo Bison et John Dobrynin étaient respectivement les premiers, deuxième et troisième scrutateurs. Pierre Laroche, le grand conseiller, Jacques Neefs, le délégué, René Hainaut, l'éminent cultivateur des parts célestes, Benoît Van Dortslaar était l'ingénieur, Éric Gobin, l'officier des séances, Stéphane Aubergen, une vieille, Max Pérez, un gamin, Ava Dobrynin, une gamine. L'extrait de l'adagio pour violoncelle seul de Gaston Compère est interprété par Jean-Paul Dessy. Enregistré dans les studios Acoustic Recordings par Jarek Frankowski. Composition sonore et mixage, David Fortez. Une fiction écrite, produite et réalisée par Lorenzo Carola, avec l'aide de la Communauté française de Belgique.
La radio comme médium est là où l'art radio comme média a lieu, John Barber. Alors j'espère que vous avez pu être captivé par cette histoire radiophonique, Olimo ou les Scrutateurs du désert, de Lorenzo Carola, les Scrutateurs de désert, de Lorenzo Carola. Et je voulais vous donner quelques petites précisions, bien sûr, sur Lorenzo Carola, qui nous a fait vivre ce super moment. Il est né à Naples en 1965. Et après des études de chant, notamment à l'Opéra Course de la Guildhall School of Music de Londres, il travaille comme ténor soliste en Europe et aux Amériques. Il habite maintenant en Belgique, où il a enseigné le chant au Conservatoire de Mons et à l'Académie de musique de Bruxelles. Aujourd'hui, il est le directeur, depuis plusieurs années, du Forum de la création musicale, créé le 20 mars 2002. Ce Forum de la création musicale, qui s'appelait anciennement le Forum des compositeurs, est une association qui bénéficie d'un contrat programme avec la Fédération Wallonie-Bruxelles et qui réunit à ce jour une quarantaine de membres. Le projet de cette association est multiples. En premier lieu, il s'agit de pourvoir les œuvres de l'ensemble des compositeurs et de les promouvoir de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qu'il s'agit de musique écrite ou électro-acoustique, mais aussi d'élaborer des recommandations envers les institutions concernées, tant sur le plan national qu'international, en vue d'améliorer le statut de compositeur-compositrice et ainsi de servir de centre d'information et de plaque tournante entre tous les acteurs concernés par la création musicale. Merci en tout cas de nous avoir suivis aujourd'hui, chers auditeurs et auditrices, d'avoir effectué cette traversée à l'intérieur de cette œuvre de Lorenzo Carola et de nous avoir accueillis chez vous. Résonance sera diffusée mardi prochain de 13h à 14h, puis dimanche de 20h à 21h. Podcastez Résonance quand vous le souhaitez sur le site de Résonance Contemporaine, www.résonancecontemporaine.org, ou sur le site de Radio B, www.radiob.org. www.radio-b.fr. Voilà, une très belle journée à vous sur Radio B et à très bientôt.